Notre première invitée en studio est Jocelyne Gadebois, infirmière, et elle va entre autres nous donner des trucs pour garder en fait la santé durant l'hiver, précautions et solutions. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Donc, évidemment, le froid est déjà en place. En fait, il est arrivé assez brusquement.
Oui, aujourd'hui, on dirait que vraiment, il faut s'habiller chaudement.
Il faut s'habiller chaudement, effectivement. Donc, s'habiller chaudement, c'est évidemment une manière de prévenir, de contracter certains virus, certaines bactéries, mais c'est pas tout. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour essayer de rester en santé le plus longtemps possible
Oui,
à l'hiver.
oui, tout à fait. Alors, on a dit qu'on parlerait un peu de la grippe et du rhume.
Un incontournable.
Un incontournable, et je pense que la plupart des personnes en font moins une fois par année, et c'est durant la saison d'hiver. C'est pas parce que c'est la saison d'hiver que c'est la saison des grippes et des rhumes. C'est présent, en fait, toute l'année, je dirais.
OK.
Mais ça apparaît plus à l'hiver parce qu'on est plus confiné. Dans nos maisons, on est plus dans nos bureaux avec tout le monde et ça fait que l'air aussi est plus sec, l'air que l'on respire est plus sec et que ça fragilise les muqueuses à ce moment-là. Alors, en fait, la grippe et le rhume, c'est tout l'hiver. Mais il y a des pics qu'on remarque à cause de ces deux raisons-là et parce que la transmission se fait plus rapidement à ce moment-là. Qui sont des périodes de pic de grippe et de rhume. D'ailleurs, on en entend parler parce que bientôt, on va entendre parler des vaccins.
Oui,
Les
exact.
Grandes, grandes périodes de vaccination sont à veille de commencer. Et parce
tout à
que,
fait, puis on n'en a pas au mois de juin, par
non,
exemple.
On n'en a pas au mois de juin. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins parce qu'on va dehors, on respire l'air frais, on ouvre nos fenêtres, nos portes, etc. Parce que le froid ne donne pas la grippe. Prendre froid ne donne pas la grippe. Ce qui donne la grippe et le rhume, c'est le fait d'être contaminé par un virus ou une bactérie. Ça commence la plupart du temps par un virus, puis si ça se complique, il y a une petite bactérie qui vient se joindre à ça. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe.
C'est une des grandes questions de l'humanité à laquelle on est en train de répondre ce matin. La différence entre la grippe et le rhume.
Oui. Bien, la grippe, c'est vraiment très troublant d'avoir la grippe parce qu'on est misérable. Les symptômes arrivent soudainement. On est malade, on a mal à la tête, on est fatigué, on a mal aux muscles, on veut rester couché tout le temps, on s'endort, on peut faire de la fièvre aussi. Le nez nous coule, on tousse et c'est comme les symptômes plus marqués que le rhume. Le rhume, c'est une petite infection virale des voies supérieures, des voies respiratoires supérieures,
voilà.
Le nez, la gorge, les oreilles. C'est beaucoup moins dramatique que la grippe. Dans le rhume, on a pas mal aux muscles, on n'a pas de maux de tête et de grosses migraines en même temps, et la fatigue est moins présente.
D'accord. Et si je ne m'abuse, je crois qu'entre autres, quand on pense à la grippe, si ce n'est pas soigné adéquatement, ça peut dégénérer, ça peut mener à
Ben,
autre chose.
oui, ça peut.
Ce n'est pas le cas du rhume nécessairement.
Non, absolument pas. Mais les complications
Voilà.
De la grippe et du rhume, pour la grippe et le rhume, dans les deux cas, on peut faire des pneumonies. On peut faire une infection bactérienne. Ça peut, à cause des liquides qui restent vraiment en surface et qui se contaminent par des bactéries, ça peut faire une infection bactérienne où on a besoin d'antibiotiques à ce moment-là. C'est pas vrai que ça va partir tout seul. La grippe, les personnes qui sont vulnérables, par exemple les personnes plus âgées, les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques, les personnes qui ont des problèmes respiratoires déjà, comme ceux qui font de l'asthme, les bronchites qui sont bronchites, comment on dit ça,
chroniques, qui en font en répétition.
C'est ça, exactement. Ces personnes-là, c'est dangereux de faire des complications. C'est pour ça qu'on vaccine, d'ailleurs.
Justement, ça nous amène sur le sujet du vaccin qui reste encore un sujet controversé à chaque année. Quand ces campagnes de vaccination-là prennent, en fait, ça se déploie un peu partout au Québec. Il y a toujours une certaine controverse à savoir est-ce qu'on devrait ou pas se faire vacciner, qu'est-ce que ça amène, est-ce qu'on est à risque, comment est-ce qu'on identifie les personnes qui devraient recevoir le vaccin?
Bon, alors ce sont les personnes que je viens de nommer, d'abord et avant tout, les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé chronique, avec le système immunitaire diminué.
Mm-hmm.
Alors, ce sont aussi des personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques. Alors ça, ce sont les personnes qui doivent se faire vacciner, ainsi que leur entourage immédiat.
Voilà. Ah, c'est pour ça qu'on inclut une plus grande partie
oui,
de la population,
oui,
finalement.
Ainsi que leur entourage immédiat. Alors, dans la population des jeunes et des adultes, les personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques, évidemment, ou qui ont des problèmes de maladies chroniques auto-immunes, eux autres vont se faire vacciner, ainsi que les membres immédiats de la famille proche, puis les personnes âgées.
Et on voit quand même beaucoup de vaccins qui se donnent dans les écoles aussi. Donc, même pour les enfants, c'est quelque chose à considérer.
Oui, je ne crois pas que le vaccin contre la grippe se donne dans les écoles, cependant. Il se donne dans les cliniques organisées par les CLSC, qui s'adressent vraiment aux clientèles que je viens de vous mentionner.
Si je l'ai reçu à l'école, c'était peut-être parce que j'étais une clientèle à risque.
Probablement,
donc,
probablement.
Ça,
Oui,
ça explique.
Oui, il se peut qu'il y ait dans les écoles des cliniques pour les personnes à risque, justement.
Justement. Et bon, malheureusement, malgré toutes ces préventions qu'on peut mettre en place, ça se peut qu'on ait le rhume ou la grippe.
Oui.
Même aussi la gastro-entérite, qui est quand même quelque chose qui est contagieux. Qu'est-ce qu'on fait une fois malade?
Bon.
Comment est-ce qu'on laisse aller ça avec un bouillon de soupe chaude ou est-ce qu'on prend plutôt des médicaments?
Bien, au début, je pense que la première chose, c'est de se reposer et de bien s'alimenter. La première chose, le petit bouillon chaud, c'est vrai. Ça aide pour la décongestion. OK? On va traiter nos symptômes. Si on a le nez bouché, on va mettre de l'eau salée dans notre nez. On peut acheter les produits qui se vendent à la pharmacie pour ça aussi. Et on va boire de l'eau. On va hydrater notre corps, OK, pour que vraiment on puisse éliminer. Et voilà, c'est ça qu'on a à faire. Si on a de la fièvre légèrement, on va prendre du Tylenol. On ne donne pas d'ibuprofène à des enfants, mais adultes, on peut en prendre si on est tolérant à l'ibuprofène.
OK.
On va aller voir le médecin, puis c'est dans les deux cas la même chose, là. On va aller voir le médecin si on fait de la fièvre 39,5 et plus pendant 72 heures.
Pendant 3 jours.
Oui,
OK.
exactement. Là, on va aller voir le médecin, il y a quelque chose. OK? Si on n'arrive plus à s'alimenter, puis si, en quelque part, on a des migraines intolérables ou on a besoin qui ne répondent pas au Tylenol ou à l'ibuprofène, je pense que oui, après 3-4 jours, on va aller voir le médecin. Mais on attend pour voir comment le symptôme va évoluer.
Puis,
mais ça dure de 5 à 10 jours.
Bon.
Normalement, le processus
bon
viral...
Bon rhume, mauvais rhume,
ça dure de 5 à 10 jours. Mais si les symptômes sont tels que je viens de les décrire, à ce moment-là, on va aller consulter.
Et puis, en termes de prévention, c'est aussi important, justement, bon, de se couvrir, bien sûr, mais aussi de se laver les mains.
Ah, de se laver les mains. C'est vraiment par ça que ça commence. Et si on est grippé nous-mêmes, bien, on essaie de ne pas mettre notre main à notre bouche, à notre nez, pour ne pas transmettre le virus facilement. Puis on lave nos mains souvent, on éternue dans notre...
dans notre pli du coude.
Puis on essaie de pas avoir de foule. On voit pas le temps d'aller magasiner. On reste plus dans notre coin, à distance des personnes, pour ne pas transmettre le microbe. Puis inversement, les personnes qui ne sont pas contaminées doivent aussi prendre ces précautions quand ils sont en présence de personnes qui sont contaminées.
Tout à fait. Madame Gadebois, en terminant, j'aimerais qu'on aborde d'autres moyens de prévenir et soigner d'autres blessures liées à l'hiver, par exemple les engelures ou les blessures dues, entre autres, à des séances de pelletage pour la neige.
Alors on est dans d'autres choses complètement.
Tout à fait.
Alors, je pense qu'avant d'aller pelleter, on devrait faire un petit peu d'exercice d'étirement, comme on fait avant de faire du sport. La posture en pelletant, elle est fondamentale Et c'est-à-dire prendre une posture confortable en s'appuyant sur les jambes, les cuisses. Donc, pas pencher notre dos, mais en pliant nos cuisses pour aller chercher notre pelletée. Puis pas trop des grosses pelletées, là. On peut prendre ça plus légèrement.
Plus à la légère, tout
plus
à fait.
Plus à la légère. De toute façon, c'est plus agréable. On est dehors, puis on respire l'air pur. Alors, c'est mieux comme ça. Alors, je pense que l'étirement, avant de commencer, c'est ce qui aide. Puis pas aller trop vite, aller à notre rythme, je dirais.
Parfait. Puis par rapport aux engelures, est-ce que vous aviez un conseil en particulier?
Bien, par rapport aux engelures, bien, c'est d'avoir des...
Ou plutôt, quoi faire lorsqu'on en a?
Oui, c'est ça. Pour les prévenir, bien, c'est de porter quelque chose de chaud qui réchauffe nos extrémités, de bouger nos doigts aussi dehors quand il fait froid. Et les pieds, c'est d'essayer de bouger dans nos bottines. Mais quand on a des engelures, on va pas arriver dans la maison puis mettre ça à l'eau chaude là, tout de suite. Là.
OK. Ça serait le réflexe qu'on aurait normalement.
Oui, c'est ça. On va réchauffer, mais tranquillement à la maison. Puis si on a des engelures vraiment graves, là, où on voit du tissu nécrosé un peu, là, des choses comme ça, là, on va voir un médecin. On s'en va à l'urgence, OK? Là, c'est un autre problème. C'est un problème circulatoire là, qui est vraiment... c'est gelé même au niveau des petites artérioles. Alors, mais à la maison, on va bouger nos mains, puis on va les réchauffer plus en articulant nos doigts, nos mains, nos pieds, en frottant, massant un petit peu, qu'en mettant nos mains à l'eau chaude.
Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Jocelyne Gadebois. Vous êtes infirmière et une habituée aussi de Canal M.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous pour nous conseiller sur ne pas garder la santé dans cette saison froide qui s'amorce.
Oui, on aura l'occasion peut-être d'en reparler.
C'est très possible. Oui. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.